Au 01 45 24 7000, Philippe nous appelle de l'Essonne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question à propos du programme de Nicolas Sarkozy. Vous avez un programme extrêmement à droite. Est-ce que vous vous engagez à ne faire aucune alliance pour les législatives? Comment ferez-vous pour gouverner sans l'apport du Front National en 2017 lors des législatives? Et d'autre part, pourquoi vous n'appelez jamais François Hollande le président Hollande? Vous dites toujours Monsieur Hollande. Ça fait très bizarre.
Bonjour, bonjour Philippe. Rien que pour vous faire plaisir, je voudrais dire mon désaccord total avec le président Hollande. Et donc, vous avez raison, j'ai aucun problème à l'appeler président, ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal, il l'est. Par ailleurs, et même vous savez, quand on a été président de la République, on reste président. Hein, donc on est dans la même situation. S'agissant des alliances avec le Front National, c'est très facile de vous répondre, je n'ai jamais accepté la moindre alliance. Pour le plus petit canton de France, je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier? Et d'ailleurs, Philippe, si vous regardez ça, Madame Le Pen ne m'appelle pas le président Sarkozy et me combat comme une cible prioritaire. Vous dites que mon projet est très à droite. Je ne le pense pas. Je suis pour une alternance déterminée, véritable. Allez, la politique de sécurité, continue comme ça? 238 morts en moins de 2 ans. L'immigration continue comme ça? L'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards 300 millions. Hélène Jouan parlait du Nigeria. Vous savez ce que c'est le Nigeria? Ça sera le troisième pays le plus peuplé du monde dans 30 ans. L'affaire de l'islam politique, on continue comme ça? On accepte que les femmes doivent se couvrir de burkini sur nos plages? Les impôts, on continue comme ça, Philippe? Est-ce que, à chaque fois que je dis qu'il faut une rupture avec ce que fait le président Hollande, qu'il faut une alternance véritable, c'est parce que je suis à droite? Ou parce que j'ai conscience que la France peut pas continuer ainsi.
D'autres questions pour vous? Alors, beaucoup de réactions sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, à propos des enseignants et de leur travail. François, par exemple, qui nous appelle de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour François.
Bonjour. En fait, je suis pas à Villeneuve-d'Ascq, parce que je suis sur la route pour aller travailler.
Eh ben,
vous êtes bien. Je me demandais si j'allais pas faire demi-tour, parce que mes 6 mois, je pense déjà les avoir faits.
Alors, 6 mois, c'est...
Oui. Je voulais juste réagir. Vous laissez dire à Monsieur Sarkozy ou Monsieur le Président Sarkozy qu'un enseignant certifié a une obligation de service de 18 heures par semaine et travaille 6 mois par an. Donc si je comprends bien, Monsieur Cohen, vous qui animez la tranche du 7-9, vous travaillez donc 2 heures par jour. Hein, je suppose que vous arrivez à 7h-5, vous ne préparez pas du tout votre tranche, votre intervention. Voilà. Écoutez, nous, c'est à peu près la même chose.
Merci François. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour contester ces propos que vous avez tenus. Un enseignant travaille 6 mois, puis 18 heures par semaine.
Non, mais on peut contester tout ce qu'on veut, mais il y a des faits. Et je dis à François que, pour moi, le travail d'enseignant est un travail extrêmement noble, extrêmement difficile. Bon, mais on ne peut pas contester qu'il y a, dans l'organisation du calendrier scolaire, 6 mois de classe. Et 6 mois, il n'y a pas classe. Ça ne veut pas dire que vous tournez les pouces, François. On ne peut pas contester qu'un professeur certifié à 18 heures, j'ai dit, d'obligation de présence. Naturellement, la préparation des cours, la correction des copies, tout ça, c'est vrai. Et on ne peut pas contester qu'un jeune enseignant commence à 1600 euros parce que la République, il y a bien longtemps, a fait un arbitrage qui n'est pas un bon arbitrage, François, qui vous demandait peu d'heures de présence et en échange, un salaire très bas. Je veux revaloriser profondément la fonction enseignante qui est sans doute l'une des plus utiles dans la société française. Pour revaloriser votre fonction, François, il faudra vous demander plus de présence dans les établissements. Pourquoi? Parce qu'un jeune enseignant qui habite à 1 heure de son lycée ou de son collège, quand il a 15 heures ou 18 heures d'obligation de service, il les boucle jour de jour, ce qui est parfaitement normal parce que ça lui évite de faire des trajets en permanence. Et quand un gosse sort de classe et qu'il a besoin de s'adresser à un enseignant, vous n'avez même pas de bureau dans l'établissement et vous n'êtes pas présent. Donc je veux plus de présence des enseignants pour encadrer les enfants qui n'arrivent pas à suivre. Et vous verrez, François, réfléchissez à ça. Il n'y aura pas d'autre choix pour la société française que de vous demander d'être plus présent dans les établissements pour mieux encadrer les enfants, de mieux vous former et de mieux vous rémunérer. C'est le choix que je fais. La gauche vous a trahi, François. Elle ne s'intéresse à vous que la veille des élections. Au lendemain des élections, elle vous oublie. À quoi ont servi les 60 000 postes créés? Y a-t-il moins d'enfants dans les classes? Y a-t-il plus de profs au contact des enfants? Non, on ne peut pas continuer comme ça, François. Si à chaque fois quelqu'un dit « voilà la vérité » et essaye de la décrire, je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais là, ces chiffres sont incontestables. Si on le prend comme une insulte, alors la France va continuer à aller dans le mur.
Vous êtes certain, Nicolas Sarkozy, que les créations de postes qui ont été opérées depuis 2012 n'ont pas amélioré les conditions de vie scolaire et les rentrées successives?
Et hélas, Patrick Klein, je suis certain, parce que les chiffres qui sont publiés montrent qu'il y a toujours des classes surpeuplées, montre qu'il y a toujours un malaise enseignant, parce que c'est extrêmement difficile, oui, d'être un enseignant.
Ça ne va pas s'arranger si vous réduisez les postes.
Au contraire, pardon de vous le dire, si dans la classe, il n'y a pas un enfant qui, regardant son maître ou son professeur, se dit « j'ai envie de faire comme lui, parce que le boulot qu'il fait, il est utile, il est bien rémunéré, il est bien considéré », où est-ce que va l'école de la République? Vous savez, j'ai fait une erreur, vous me demandiez. J'ai longtemps cru que la bonne réforme de l'éducation nationale partait de l'enfant. Ben je pense que c'est une erreur, une fausse bonne idée. La bonne réforme de l'éducation nationale part de l'enseignant. Parce que si l'enseignant n'est pas bien rémunéré, pas bien considéré, pas bien respecté, pas bien formé, vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, vous n'en sortirez pas. Mieux payé, plus d'heures de présence, je crois que c'est l'avenir pour l'éducation nationale française.
Jacques nous appelle de la région Limousin. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Sarkozy.
Bonjour Jacques.
Êtes-vous devenu climato-sceptique? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelle politique de lutte contre le changement climatique mènerez-vous si vous êtes élu en mai prochain?
Merci de me poser cette question, Jacques. Est-ce que je suis devenu climato-sceptique? Non. Alors, ça me permet de préciser ce que j'ai dit. J'ai dit, Jacques, que l'homme n'était pas le seul responsable des dérèglements climatiques. Première chose. J'ai dit une autre chose. C'est que les dérèglements climatiques, nous les connaissons depuis longtemps. Bon, la planète, Jacques, c'est 4 milliards et demi d'années. Depuis 4 milliards et demi d'années, nous n'avons connu que des dérèglements climatiques, je ne prendrai qu'un seul exemple, dans le désert, dans le Sahara, il y a des fossiles de coquillages et même des squelettes de requins. Cela prouve que le Sahara était, il y a des milliers d'années, une mer ou en tout cas une zone humide. Troisième chose que j'ai dit, c'est que le premier problème environnemental que le monde a affronté et qu'il n'a jamais affronté, Jacques, c'est que la population mondiale va passer de 7 milliards aujourd'hui à 11 milliards en 2100. Jamais, jamais, Jacques, nous n'aurons connu un tel choc démographique. En résumé, on a déjà connu des chocs climatiques, on n'a jamais connu un choc démographique.
En disant cela, c'est une forme de relativisme sur le phénomène que nous connaissons depuis des décennies d'action de l'homme pour qui favorise le réchauffement de la planète, Nicolas Sarkozy.
Patrick Cohen, en disant ça, je ne m'incline pas devant une pensée unique et j'essaye de décrire les phénomènes tels qu'ils sont. Vous savez, j'aime bien les gravures. Au début du XXe siècle, il y a des gens qui font du patin à glace sur la Seine. Bon, on ne le fait plus. La dernière période de refroidissement, ce qu'on dit la petite période glaciaire, c'est grosso modo 14-15e siècle, début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire les choses avec mesure, sans caricaturer, ou est-ce que le système médiatique est devenu à ce point caricatural qu'il n'y a que la caricature qui peut passer ?
Emmanuel nous appelle de Paris. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour. Comment, Monsieur Sarkozy, comment allez-vous
bonjour,
lutter
Emmanuel.
Contre les dealers, les voleurs, les conteneurs de loi, alors que vous êtes vous-même mis en examen sur Big Malion? Pourquoi est-ce que vous fuyez vos responsabilités devant la justice, en fait? Pourquoi ne pas mettre tout ça au clair avant de vous présenter à un mandat électoral?
Mettre au clair, c'est-à-dire comment, de quelle façon, Emmanuel?
Bah, devant la justice.
Ah oui.
De prouver votre bonne foi.
Bon. Emmanuel, je me suis souvent expliqué, mais je le refais bien volontiers. J'ai été, par le passé, interrogé beaucoup à France Inter, notamment sur l'affaire Bettencourt, qui a été le cœur de la campagne de 2012, qui s'est terminée pour un non-lieu pour moi et pour une relaxe pour M. Woerth. Vous savez que mon non-lieu a fait moins de publicité que toutes les polémiques. Bon. Sur l'affaire Pygmalion, pardon, Emmanuel, je ne suis pas mis en examen pour les agissements de Pygmalion. Je suis mis en examen pour dépassement des comptes de campagne, ce qui a été sanctionné par le Conseil constitutionnel. J'ai été 12 heures interrogé par un magistrat qui m'a dit « Vous n'avez rien à voir avec les agissements des dirigeants de Pygmalion. » Rien, 12 heures. Donc je veux bien venir à France Inter pour me justifier là-dessus, Par ailleurs, l'un de mes concurrents
a dit... Pardon, on attend une décision des juges.
Mais la décision des juges...
Qui pourrait vous renvoyer devant un tribunal pour cette affaire.
Dans ce cas, c'est
pour financement illégal de campagne.
Non.
Oui, pour financement illégal.
Non, c'est même pas financement illégal. Pour dépassement. Non, je vous assure, Thomas Legrand, c'est dans l'article du financement, mais c'est pour dépassement.
C'est dans l'article du financement illégal. Ce n'est pas rien non plus d'avoir dépassé les limites.
Mais ça a déjà été... ça a déjà été tranché
par le Conseil
constitutionnel de manière définitive. Et je vais dire à Emmanuel que je suis le premier candidat à la présidentielle, qui n'aura donc rien coûté aux contribuables, puisque j'ai assumé, en faisant ce qu'on a appelé à l'époque le sarcoton, le remboursement intégral des comptes de ma campagne, et j'ai même, de ma poche, payé les 340 000 euros de pénalité.
Si vous êtes désigné le 27 novembre, Nicolas Sarkozy, vous serez... vigilant ou davantage vigilant cette fois sur vos dépenses de campagne et vos frais de meeting.
Vous savez, c'est quelque chose de très complexe. J'étais à l'époque président de la République, président du G20, j'avais été président de l'Europe. Vous savez, les comptes de ma campagne, c'est 40 cartons. Je mets au défi quelques candidats à la présidentielle, que cela soit, de viser toutes les factures. Il est candidat, il ne vise pas les factures. La vérité.
L'argent des meetings, ça se voit, Nicolas Sarkozy. Un meeting de luxe, c'est pas la même chose qu'un.
Mais Patrick Cohen,
un truc bricolé dans une petite salle.
Les limites sont dépassées.
Faut lever le pied. Ne dites pas que ça comme ça. J'ai fait les mêmes meetings que le président Hollande, dans les mêmes salles que le président Hollande. Tout le monde le sait, exactement les mêmes. Ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est que c'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle a été examiné comme je l'ai été examiné. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça devrait rassurer Emmanuel. Quel justiciable a été autant écouté, examiné que moi, entendu par des juges, pour quel résultat ? Aujourd'hui, si Emmanuel veut mon casier judiciaire, je lui donne bien volontiers. Il est aussi vierge que le sien. Je l'espère en tout cas, Emmanuel.
Un coup d'œil sur les réseaux sociaux avec vous, Hélène Roussel.
Bah, tout a été plus ou moins dit. Hein. Les profs,
les profs sont très nombreux
à tweeter, évidemment, à propos de ces 6 mois. C'est oublié un peu vite. Les lectures, les copies, les cours, etc. qui se font à côté, évidemment, des heures de cours.
Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit ? J'ai pas dit qu'ils travaillaient.
C'est des réactions Twitter.
Non, mais bien sûr, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant. On est des responsables politiques. Soit on dit à pensée unique, et d'ailleurs on traverse vos émissions en ne disant rien, en ne suscitant aucune réaction, soit on essaye de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Qu'est-ce qui s'occupe d'un gosse qui est sorti de classe, n'a pas compris sa leçon, si le prof n'est pas là, s'il n'a pas un bureau pour vous recevoir ? Qui ?
Cette prof qui vous rappelle que c'est vous qui avez supprimé la formation des profs.
Mais c'est tout à fait inexact. Les profs étaient formés par les UIFM, j'ai voulu qu'ils soient formés par l'université. Mais madame, si les profs ne sont pas formés par l'université, à quoi sert l'université ?
Vous entendez la réaction des profs. Comment ça se fait qu'en 2007, vous aviez un discours qui est rassemblé, qui donnait le sentiment que vous rassembliez, et là, votre discours, vous voyez,
Vous parlez d'un discours rassemblé ? En 2007, oui. Thomas Legrand...
Bah vous avez gagné.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'on semblait mieux. En 2007, le débat, c'était sur le Karcher et sur la racaille. Les kiosques de Paris étaient « Cet homme est-il fou ?» ou « Pourquoi fait-il peur ?» Donc j'adore la reconstruction des histoires. Parce que vous avez gagné, c'est formé. Parce que vous avez gagné, c'est formidable. En 2007, j'ai fait 53%.
Oui,
en 2008, j'ai fait 48,5. Ça ne veut pas dire que tout est à garder de 2007 et que tout est à jeter de 2012. En revanche, je veux dire aux enseignants que nous avons un chemin à faire ensemble et qu'on ne peut pas se contenter de la pensée unique et du débat comme si tout allait bien. Il y a beaucoup d'injustices à l'endroit de l'école de la République qui ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais en même temps... Il y a des choses qui vont pas. Par exemple, tous les mois et demi, il y a 15 jours de vacances. Quelle famille peut supporter ça, de récupérer ses enfants ? Hélène Jouan parlait des femmes. Les femmes n'ont pas à choisir entre vie professionnelle et vie familiale. Quelle femme peut récupérer tous les mois et demi ses enfants pour 15 jours de vacances ? Il y a un problème. Il faut revoir le calendrier scolaire et les horaires de présence de nos enfants à l'école.
On va marquer une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Alex Vizorek pour tout le bien qu'il a promis de vous dire.